Une thèse. Un détail. C'est Détails de thèse. Épisode 3. Péripéties.
Dans cet épisode de Détails de thèse, nous allons parler de la recherche qui n'est pas une ligne droite, mais bien une quête sinueuse de la vérité, jusqu'à de nouvelles preuves. Avec Amélie Lay, doctorante sous la direction du docteur Malvin Rolly Derkinderen et du docteur Marie Bodinier.
Donc je travaille sur la modulation du microbiote intestinal à travers une stratégie nutritionnelle dans le but de voir si cela a un impact sur le développement d'une maladie chronique, qui est les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin.
Donc de savoir ce qui se passe dans notre ventre a une influence sur des maladies, c'est-à-dire au niveau du déclenchement, au niveau de l'évolution de certaines maladies.
Oui, des deux. Du coup, de savoir si est-ce qu'on peut prévenir ou pas le développement d'une maladie chronique à travers la prise ou non de certains substrats alimentaires. Et du coup, également voir s'il y en a une qui surgit tout de même, est-ce que son développement va être plus ou moins drastique par rapport à le fait qu'il n'y a pas eu d'apport en substrat alimentaire. Donc c'est vraiment ça, c'est le côté induction de la maladie, mais également son développement sur le long terme. Ça va rester comme ça ou non.
Donc du préventif et de la thérapie également.
Voilà, et surtout préventif parce que nos travaux se basent sur des études préliminaires faites par notre partenaire INRAE, qui ont démontré que supplémenter des souris mères avec certains prébiotiques, donc des substrats alimentaires bénéfiques pour l'hôte, a un impact, un effet protecteur sur la survenue d'une allergie alimentaire chez la descendance. Et donc c'est à partir de ce constat-là, de ce travail-là, qu'on a voulu étendre la réflexion sur d'autres maladies chroniques, que sont les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, et donc sur ce même modèle de souris et de supplémentation nutritionnelle. On essaye de voir sur un autre modèle de maladie s'il y a prévention ou non, ou exacerbation. Donc vraiment très exploratoire.
Ce sont des études précliniques. Vous réalisez vos expériences sur des modèles animaux, c'est bien ça?
Oui, c'est cela. On a une animalerie au niveau de l'INRAE où sont hébergées nos souris et sur lesquelles on travaille. Donc c'est un modèle animal assez classique, somme toute, le modèle murin des souris. Une souche particulière et sur laquelle on a déjà fait des études d'apport en substrat alimentaire.
Vous avez dit être déjà en troisième année de thèse. Est-ce que ça signifie que vous avez eu du coup l'occasion d'avoir des résultats et de les analyser pendant ces trois années de thèse?
Oui, tout à fait. Ben, dès la première année de thèse, en fait, on a mené notre protocole expérimental animal au bout. Donc la première série d'expériences qui nous a amené à voir qu'en fait, cette prise alimentaire maternelle induit non pas une protection, mais plutôt une exacerbation du développement d'un modèle de maladie inflammatoire chronique de l'intestin qui est la colite, une inflammation du côlon. Et donc, ce résultat surprenant a abouti en fait à une itération de ce protocole expérimental pour une seconde série et une troisième pour pouvoir vraiment avoir la puissance statistique nécessaire pour pouvoir vraiment démontrer ce résultat, le confirmer plutôt.
Donc vous avez réalisé plusieurs fois ces expériences pour en confirmer le résultat qui n'était pas forcément prévu. Comment ça s'est passé au sein de l'équipe? Est-ce que ça a été la surprise? Est-ce qu'on a d'abord pensé que le protocole n'était pas correctement appliqué? Qu'est-ce qui s'est passé?
Oui, alors du coup, il y a eu plusieurs réactions. Il y a le côté, au niveau de l'encadrement, on était plutôt sur une réaction positive du fait qu'on a obtenu un résultat. Et qu'il soit, entre guillemets, protecteur ou exacerbateur, ça reste un résultat. Et du coup, on incrémente la recherche d'une nouvelle connaissance. Donc, c'est vu comme positif par mon encadrement. De mon côté, c'était un peu plus dur parce qu'en tant que jeune chercheur, on s'imagine très facilement, on va dire, sauver des vies, améliorer le bien-être de patients. Et donc forcément, au début, on se dit, mince, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est un artefact? Est-ce que c'est moi qui ai mal designé ou mal effectué mes expériences? Et avec le recul, on voit que c'est un résultat en soi et que avant d'avoir d'autres émotions, il faut confirmer la chose et après on pourra incrémenter ou pas le projet d'étapes supplémentaires.
Vous l'avez dit, un résultat est un résultat. Et quelles ont été les conclusions au final? Est-ce qu'il fallait refaire d'autres expériences, s'attaquer à d'autres maladies? Est-ce que c'était plus des portes ouvertes vers d'autres réflexions ou un résultat ferme et définitif?
Déjà, on a dû réitérer l'expérience justement pour confirmer ce résultat. Et à l'issue de ces trois séries expérimentales, on était assez confortés sur notre résultat. Après, il y avait toute la partie explication du résultat qui nous restait à amener et qui est assez intéressante et que de toute manière, on voulait mettre dans le projet. Toujours ce côté mécanistique, en plus de l'effet pathologique observé. On est resté sur ce résultat d'effet exacerbateur de la colite. Et on a voulu l'incrémenter, l'enrichir en fait d'un éclairage sur différentes barrières biologiques. D'accord, ça a un effet exacerbateur de la colite. Quel est l'effet sur la barrière intestinale? Quel est l'effet sur le système immunitaire? Quelle est la réponse de l'hôte? Et donc c'est tout ce travail après de décortiquer, d'expliquer quel est cet impact des prébiotiques, donc de ces substrats alimentaires sur ces différents systèmes biologiques. Oui, c'est d'aller plus en détail. En fait, on a un résultat plutôt macroscopique où on se dit la maladie est exacerbée. Du coup, après, on se dit en quoi? Et donc, c'est pour ça qu'après, on va zoomer sur différentes parties de l'organisme, que ce soit la barrière intestinale, le système immunitaire ou même la réponse de l'hôte, que ce soit en termes d'expression de certains gènes, de certaines protéines. Donc, d'aller plus en détail, en fait, dans ce résultat-là. Voilà, j'arrive au bout de ma thèse. L'idée, ça aurait été d'aller encore plus loin, de chercher quelques cibles, de se dire c'est tel ou tel médiateur lipidique, telle ou telle souche bactérienne ou tel gène qui va vraiment driver, qui va vraiment influencer le résultat. Et après, peut-être essayer de le bloquer en vue de prévenir d'une colite. Donc, on est plutôt au stade juste un petit peu avant. On est encore dans la description de nos résultats, dans la compréhension du phénomène.
Et dans une thèse, dans un doctorat, il n'y a pas que l'aspect des expériences et de leurs analyses. Il y a toute la vie de labo qui peut y avoir, la valorisation des travaux, même la gestion du projet de thèse en lui-même. Et parmi tout ce qui a pu être vécu pendant ces 3 ans, quelle a été la notion ou l'information qui a été la plus importante, qui est le plus ressortie dans tout ce qui a été vécu pendant 3 ans?
C'est vraiment la communication, l'interaction avec tous les membres, en fait, au final, que ce soit avec le consortium Miviogate, mes encadrants ou même nos pairs. C'est très important de savoir bien communiquer sur ce qu'on fait pour avoir des bons retours pertinents, mais également pour pouvoir avancer ensemble et savoir s'écouter est aussi assez important. Mon encadrement est multisite au final. Donc j'ai un encadrement INSERM-TENS, mais également INRAE. Donc déjà, il y a ce jeu d'interaction entre deux organismes qui sont différents dans leur thématique, mais qui se rejoignent sur des projets communs comme celui-ci. Et donc, ça va être aussi de faire l'arbitrage de comment on va mener le projet ensemble et que tout le monde arrive à un consensus à la fin des réunions pour pouvoir vraiment aller dans une direction commune. C'est vraiment ce côté communication qui était important. Et même, on parlait de médiation scientifique, c'est aussi important de démystifier ce qu'on fait, à la fois pour nos pairs au sein de congrès, ou en fonction de si on a un clinicien devant nous, ou si on a quelqu'un qui est chercheur en biologie, ou plutôt un chimiste, le discours sera adapté pour que la même information soit perçue et retenue par la personne. Et que ce soit pour le grand public, j'ai eu l'occasion de présenter mes travaux aux Fêtes des sciences, aux Utopiales, d'encadrer un petit peu certains groupes d'étudiants au collège.
Le travail de vulgarisation et de rendre les recherches accessibles, c'est une mission du chercheur ou du doctorant.
Oui, tout à fait.
Entière.
De légitimer déjà nos recherches, de partager aussi les connaissances. Pour moi, ce sont deux valeurs qui sont importantes. Enfin, je ne sais pas si légitimer est une valeur, mais plutôt que les gens voient vraiment ce qu'on fait et qu'ils comprennent mieux, en fait, parce que souvent, ils ont une idée assez vague de ce qu'est vraiment la recherche, et je ne parle même pas de mon sujet de recherche. Et peut-être susciter des vocations, ça serait un beau sentiment de me dire qu'un jour, si quelqu'un me voit et me dit « oui, je t'ai vu à un stand, ça m'a donné envie de faire de la recherche ou de la science », je serais super fière et contente de dire que j'ai contribué à ouvrir une voie à quelqu'un.
À ouvrir des vocations. Amélie, une dernière question pour terminer. Avez-vous un message en particulier à nous faire passer maintenant que vous avez vécu vos 3 ans de thèse? On est presque au bout. Pour ceux qui aimeraient se lancer dans un doctorat ou ceux qui s'intéressent à la science en général?
Moi, j'ai pris beaucoup de temps avant de me lancer dans une thèse. J'ai pris le temps de réfléchir sur mon projet personnel. Qu'est-ce que je voulais faire? Et ça m'a conduit à cette réflexion un peu stratégique. Oui, je vais faire une thèse pour augmenter mes compétences, que ce soit humaine ou scientifique, et pour être plus attractif sur le marché du travail. Maintenant, voilà, je pense qu'il faut s'écouter soi-même, savoir qu'est-ce que l'on veut, qu'est-ce qu'on est prêt à donner, est-ce que c'est en accord avec notre mode de fonctionnement, parce qu'au final, une thèse, il y a beaucoup d'investissements personnels qu'il faut donner, mais il y a aussi beaucoup de joie à apprendre, mais il faut se connaître, parce que souvent, certaines personnes veulent plutôt rentrer direct dans le monde du travail et se stabiliser. D'autres peuvent encore se chercher, confirmer des choses ou ne pas avoir de regrets. Et je pense qu'il y a vraiment cette réflexion personnelle à avoir avant de faire une thèse. Et donc voilà, c'est vraiment ce message-là que je donnerais, c'est s'écouter. Et après, il faut essayer. Il ne faut pas avoir peur d'essayer.
Finalement, comme en recherche, il ne faut pas avoir peur de poser des questions.
C'est ça.
Merci d'avoir répondu aux miennes aujourd'hui, Amélie.
Merci à vous.
C'était Détails de thèse, une coproduction du Labo des Savoirs et du consortium MiBioGate, soutenu par la région Pays de la Loire et ses partenaires. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur vos plateformes de podcast et les articles associés sur mibiogate.univ-nantes.fr. Merci de votre écoute et à bientôt.